Chapitre 6. Ils traversent la forêt dans un silence recueilli. Ici, les branches des arbres paraissent plus fournies, plus vertes que partout ailleurs. Même au cœur de l'hiver, les buissons sont chargés de baies. Des centaines d'empreintes minuscules, des pas d'oiseaux et de petits animaux, dessinent des labyrinthes sur la neige. « Je crois savoir où nous sommes, » chuchote Léna. « Dans une vallée préservée. Ma mère m'en a déjà parlé. » C'est une de ces régions cachées au cœur de la montagne où subsistent des bribes d'anciennes magies. « À ton avis, » demanda Alduin, « les guerriers de glace habitent ici ?»« Sûrement, oui. Qui d'autre vivrait en ce lieu ? Nous avons de la chance de l'avoir trouvé. »« De la chance, ça reste à prouver, » marmonne le soldat entre ses dents. Sa main n'a pas quitté son sabre. Il se méfie de cet endroit. Ils atteignent le hameau sans rencontrer âme qui vive. Quelques signes disséminés, çà et là, prouvent que ses occupants ne sont pas partis pour longtemps. Les rues ont été déneigées, un seau oublié et un pic à glace reposent sur le bord de l'étang, dans lequel se déverse la cascade gelée. « Je n'imaginais pas le repère des guerriers ainsi, » commente Alduin. Le garçon ignore à quoi il s'attendait au juste, une forteresse de granit ou une tanière obscure, mais pas à ce qu'il voit en tout cas, pas à ce village silencieux. Les façades des maisons en bois clair sont sculptées de scènes étranges représentant la vallée elle-même, des femmes aux longs cheveux sous la lune et les guerriers de glace sous un soleil éclatant. Alduin veut s'approcher pour mieux voir, mais Léna le tire par la manche. « Les guerriers de glace !» prévient-elle en lui montrant les armures qui étincellent entre les arbres. « Ils sont de retour !» grince le soldat, et ses doigts se crispent sur son arme prêt à dégainer. « Cachons-nous !» propose Alduin. À la hâte, il se dissimule dans une grange. Il laisse la porte entrouverte pour pouvoir observer la place au dehors. La nuit tombe. La lune apparaît au-dessus des crêtes. Ses rayons se reflètent sur les armures des guerriers qui rentrent en rang, serrés dans le village. Dans leur cachette, les trois amis retiennent leur souffle. Les guerriers s'arrêtent au centre de la rue et commencent, plaque après plaque, à enlever leurs armures. Le soldat tressaille. Alduin et Léna retiennent un cri de surprise. Car les guerriers, ce sont des femmes. Des combattantes de tous âges, aux longs cheveux lâchés, habillées de tuniques blanches. Les trois amis comprennent peu à peu ce que deviennent les femmes que les guerriers de glace enlèvent, génération après génération. Elles deviennent guerrières à leur tour. Les guerrières se mettent à chanter. Les trois amis ont du mal à en croire leurs oreilles. La chanson des combattantes, c'est celle grâce à laquelle Léna a calmé l'ours. C'est une mélodie de leur village. Une dernière guerrière s'avance vers le puits. Elle retire son casque, fait claquer dans son dos sa chevelure fauve. Léna veut bondir vers elle. Le soldat la retient avec force. « Mais c'est ma mère !» chuchote Léna. « Ma mère ! Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Pourquoi ne s'enfuit-elle pas ?»« Regarde-la mieux !» lui intime le soldat. Au bord des larmes, Léna observe sa mère au visage tourné vers le ciel nocturne. Ses yeux ont pris la couleur de la lune. Ils ne sont plus tout à fait humains. « C'est de la magie !» murmure Léna. « Ma mère est ensorcelée !» L'une après l'autre, les guerrières rentrent dans leur maison, abandonnant leurs armures sur la place. Bientôt, des lueurs de bougies s'allument derrière les fenêtres, puis s'éteignent. Les guerrières s'endorment. Alduin, Léna et le soldat attendent encore de longues minutes sans bouger. À quelque distance d'eux, les carapaces de glace luisent tentatrices, plus brillantes que les étoiles. Alduin et le soldat échangent un regard complice. Ils pensent à la même chose. « Les armures !» chuchote le militaire. « Oui !» reprend Alduin. « Si nous nous en emparons, les guerrières de glace seront à notre merci. » Ils s'extirpent à pas de loup de leur abri. « Attendez !» les rappelle Léna. « N'oubliez pas le froid des armures !» Alduin s'arrête, se souvient des deux fois où il a tenu un éclat d'épée, la sensation de gel qui l'avait saisi. Il cherche une solution des yeux, avise une charrette remplie de bois. « Là-bas » dit-il au soldat. « J'ai vu, je vais t'aider. » Ensemble, ils entreprennent de décharger la charrette. Soudain, une bûche leur échappe et roule bruyamment au sol. Alduin se fige. Léna l'attrape par le bras et l'entraîne dans leur cachette. Le soldat tire son sabre. Il s'est à peine mis en garde que, déjà, les guerrières apparaissent. Elles tiennent à la main leurs épées de glace, et de leurs yeux lunaires, elles fixent l'homme défiguré. Alduin sent ses jambes se dérober sous lui. Il ne veut pas, non, il ne peut pas laisser le soldat mourir. Il n'a aucune arme, mais ça n'a plus d'importance. Il va s'élancer. Léna se révèle plus rapide. Elle bondit devant les guerrières. Alduin aimerait crier « Léna, reviens! C'est trop dangereux !» Mais les mots se bloquent dans sa gorge. Son amie tremble comme une feuille. Pourtant, elle prend la parole. Sa voix sonne haut et clair. « Guerrière de glace ! Vous l'avez oublié, mais autrefois vous étiez de simples filles des montagnes, comme moi. Fouillez au fond de votre cœur, et vous verrez que vous ne nous voulez aucun mal. » Les guerrières, interloquées, suspendent leur assaut. Léna pousse son avantage, s'approche de sa mère en frissonnant. « Souviens-toi, je suis ta fille. Tu me racontais que la lune, parfois, effaçait la mémoire quand on l'a fixée trop longtemps. Tu avais raison, sans doute. Mais si tu fais un effort, tu pourras me reconnaître. J'ai presque ton visage et des cheveux roux comme toi. » La mère de Léna hésite. Une profonde interrogation se lit dans son regard de lune. Elle tend une main vers Léna, prend entre deux doigts l'une des boucles fauves de l'adolescente. Celle-ci attend le verdict sans bouger, très droite, sans un battement de cils. L'Amazone se redresse. « Non, » dit-elle d'une voix sans timbre, « je n'ai aucun souvenir. »« Concentre-toi, » l'implore Léna. « Pourquoi voudrais-je me rappeler ?» répond-elle. « Depuis des siècles, les guerrières de glace secourent les femmes des montagnes, celles dont personne ne veut, celles que les hommes sont prêts à sacrifier au premier péril, celles qu'on insulte aussi, celles qu'on persécute. Parfois, nous devons nous battre pour pouvoir les emmener avec nous. Ici, dans cette vallée, j'ai trouvé une nouvelle vie. Pourquoi voudrais-je revenir en arrière ?»« Parce que tu m'aimais autrefois !» L'Amazone baisse la tête. Je ne me rappelle pas. Alors, pour la première fois, l'assurance de Léna se lézarde. Une larme cristalline perle au coin de son œil, coule en silence sur sa joue. La guerrière l'essuie d'une main. Un sentiment oublié perce dans ses yeux de lune. Que dois-je faire pour me souvenir ? Léna s'efforce de réfléchir. La lune ? C'est la lune qui a ensorcelé les guerrières. Le soleil peut sans doute rompre le sort. Dis-moi, demande-t-elle à sa mère. « Quand vous marchez dehors le jour, vous êtes toujours protégée par vos armures, par vos casques ?»« Toujours, oui. Nous ne les ôtons que la nuit. Pourquoi ?» reprend Léna avec un nouvel espoir. La guerrière hésite. « Je ne sais pas. Nous avons toujours fait ainsi. » Léna s'emballe, montre à l'assemblée les sculptures sur les murs. « Regardez, toute votre histoire est inscrite ici, sur vos propres maisons. Comment la lune vous prend vos souvenirs? Comment vous vous protégez toujours du soleil? Ne vous protégez plus. Attendez l'aube, ici, avec nous. Sans vos armures, sans vos casques, peut-être. Peut-être qu'alors votre mémoire vous reviendra. » Un grand silence suit cette déclaration. « Ça me paraît une bonne idée, » dit enfin le soldat. Plusieurs femmes hochent la tête. « Apportez des couvertures, » décide la mère de Léna. « Nous allons attendre le jour ici. » Tous s'installent pour la nuit sur la place. Les guerrières apportent des couvertures de fourrure, allument des feux de camp. Le soldat sort une flûte de sa poche. Il en tire quelques notes très douces, une berceuse des alpages. Une mélodie qu'Alduin reconnaît. Son frère jouait la même autrefois. Dans un demi-sommeil, Alduin rêve. Imagine qu'il est de retour chez lui et que le musicien, c'est Sigmund. La nuit s'étire lentement sur la vallée, puis le soleil levant apparaît à l'est, dore le sommet des montagnes. Sur la place du village, les guerrières se redressent, se frottent les paupières. Dans leurs yeux, le voile couleur de lune commence à s'estomper. La mère de Léna se tourne vers sa fille et dit d'une voix lente. « Je me souviens. » Léna sourit, se jette dans ses bras. Des exclamations de joie éclatent. Pendant un instant, tout le monde parle en même temps. Toutes les guerrières se rappellent leurs anciennes vies. Puis, la surprise passée, la mère de Léna reprend la parole. « J'ai rencontré les guerriers de glace, il y a quelques semaines de ça, alors que j'étais montée chercher des herbes dans la montagne. Le soir venait de tomber. Elles ne m'ont pas attaquée. Elles ont enlevé leur casque, au contraire. Et au-dessous, leur visage était si triste. » Elles m'ont dit qu'elles venaient de perdre leur chef. Elles m'ont demandé de la remplacer, sans doute parce que j'étais une guérisseuse, une sorcière selon les lois des hommes. J'ai refusé. J'ai dit que j'avais une fille, qu'elle avait besoin de moi dans la vallée. Elles ont insisté, elles m'ont supplié de les raccompagner jusqu'à leur village, de rester là-bas juste une nuit. Elles avaient l'air tellement perdues. J'ai accepté. En une nuit, la lune m'a ôté la mémoire. « Oh, Malena, » conclut-elle en caressant les cheveux de sa fille, « je suis désolée de t'avoir manqué. »« Ce n'est pas grave, maman, » répond bravement Lena. « Je sais me débrouiller maintenant, et j'ai des amis pour me protéger. » Elle jette un regard à Alduin, dont le visage s'illumine. Les jours suivants, Lena et sa mère parlent longtemps ensemble. Alduin et le soldat observent leur discussion de loin, sans s'en mêler. Finalement, Lena décide de rentrer dans la vallée, seule. Sa mère restera avec les guerrières de glace, mais cette fois, elles prendront garde au sortilège de la lune. Le village restera secret. La guérisseuse restera la chef des combattantes, mais elle gardera ses souvenirs, et elle redescendra souvent voir sa fille, elle le lui promet. Enfin, par un matin de neige, Alduin, Lena et le soldat reprennent la route.